Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Mpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Sia New York, ici donc aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
On connaît 15 des 16 qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Les favoris ont répondu présent. C'est le cas des Marocains de la Renaissance sportive de Berkane qui ont réussi un retournement de situation face à Fosa Junior de Madagascar, battu 5-0, alors que les Malgaches l'avaient remporté 2-0 à l'aller à Tana. On écoute Alain Traoré, attaquant de Berkane.
On est très très content. On a fait un mauvais match chez eux là-bas au Madagascar avec un mauvais terrain. On avait à cœur de faire un bon match ici. Je pense que c'est chose faite. En première mi-temps, on a voulu mettre beaucoup de pression. On les a pris à la gorge. On a marqué tout de suite 4 buts et ça nous a plus libéré en deuxième mi-temps. On a pu gérer le match. Voilà, on finit 5-0. Voilà, c'est le score qu'on voulait faire. On a réussi. C'est vraiment très très bien.
Alain Traoré, attaquant de Berkane. En face, les Malgaches de Fosa Junior trouvent difficilement les mots, à l'image de leur coach Titi Rassanaivo.
Le Fosa Junior a l'habitude de jouer dans un terrain un peu dur par rapport ici à Berkane, mais ce n'est pas la première fois qu'on joue dans un gazon comme ça. Je pense que j'ai trouvé aussi la différence entre l'RCP Berkane à Tana. Par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, les changes de tactique aujourd'hui, et nous aussi, et on a essayé de amerder l'adversaire aujourd'hui, mais ce n'est pas concrétisé.
Titi Rassanaivo, coach des Malgaches de Fosa Junior, des propos recueillis par Amine Birouk. Alors Amine, une fois de plus, le finaliste a réussi sa remontada.
Montada ou limontada par rapport à la couleur du maillot habituel de la Renaissance sportive de Berkane qui est de couleur orange. 2-0 à l'aller ne reflétait déjà pas la différence de niveau entre les deux équipes parce que Berkane avait dominé et s'était créé des occasions, avait même manqué un pénalty et avait peut-être par excès de précipitation, par maladresse loupé le coche au match aller. L'impression c'est que l'équipe était mobilisée pour la rencontre retour et les joueurs ont respecté à 100% les consignes du coach, ils ont asphyxier l'adversaire d'entrée de jeu, réussi à remonter le handicap en moins de 28 minutes grâce à Alain Traoré qui a inscrit un doublé. Et puis à partir de là, les failles de l'équipe malgache sont apparues. La Renaissance sportive de Berkane a pu finir la rencontre en roue libre. Elle a mené 4-0 après 45 minutes de jeu. Autant dire que la partie était déjà pliée à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, l'équipe a assuré avec une cinquième réalisation de Hamdi Lachir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Renaissance sportive de Berkane a joué à se faire peur. C'est la troisième fois qu'elle réussit en moins d'une année une remontada après avoir concédé un 2-0 au match aller. C'était déjà le cas face au Diaraf du Sénégal. C'était aussi le cas face au club Sportif Faxi en demi-finale de la Coupe de la CAF. Le facteur expérience, le facteur talent, le soutien du public et visiblement un peu la naïveté de l'équipe malgache ont contribué à cette qualification. Berkane part à la phase de groupe en tant que tête de série. Elle sera dans le chapeau numéro 1, eu égard à son statut de quart de finaliste en 2018 et de finaliste en 2019. Il faudra voir maintenant si l'équipe est capable de rééditer ses performances et pourquoi pas gravir un palier supplémentaire, ce qui supposerait un sacre pour cette ville qui compte moins de 20 000 habitants.
Le Oroya de Conakry, déjà vainqueur 4-2 à domicile, à l'aller, l'a confirmé en s'imposant 1-0 au Kenya face à Bandari. Alors Amdine, les carottes étaient déjà bien cuites pour les Kenyans depuis le match aller.
Oui, tout à fait. Les carottes étaient déjà cuites, mais il fallait quand même jouer ce match retour pour confirmer parce que depuis l'avènement de la remontada, on n'est plus sûr de rien. Et les joueurs du Oroya de Conakry l'ont bien compris. Eux qui avaient comme pour objectif de jouer quand même la phase de poule de la Ligue des Champions, ils vont se contenter et se consoler de cette qualification pour la phase de poule de la Coupe de la CAF Yacouba.
le Kenya qui sort bredouille puisque l'autre club, Gor Mahia, s'est incliné devant les Congolais du DC Motoma Pembe 2-1 après le 1-1 à l'aller. Qualification également des Égyptiens d'El Masri et de Pyramide et des Libyens d'El Nasr. Élysée, en revanche, on va le dire, les Togolais de l'ASK ont été éliminés par les Nigériens des Nungu Rangers. Élysée.
Bien évidemment, puisque déjà à l'aller, on a vu les difficultés qu'ont rencontrées ces Togolais qui jouent souvent au sud, notamment à Lomé. Et on a vu que les Nigériens de Nungu Rangers ont beaucoup posé de problèmes à ces Togolais au match aller. Maintenant, à domicile, on a vu que les Togolais aussi ont de la valeur, notamment avec l'international Mani Sapol, Sapol qui est revenu jouer pour au pays. Il était en Moldavie, il y a de cela deux saisons, il est revenu jouer au pays. Il a porté énormément lors de la rencontre aller. Maintenant, au retour, les Nigériens ont littéralement dominé la rencontre. Ça venait de tous les côtés. Ils étaient très, très mobilisés en ce temps-là, puisque Ifani Azuka, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il a malmené la défense togolaise et a planté pratiquement deux buts. Donc, c'est-à-dire que les Nigériens auront deux représentants dans cette compétition, puisque le football nigérien a commencé par bien jouer la phase des compétitions africaines des clubs.
Le Nigeria aura deux représentants, tout comme le Maroc. Alors, Amine, le Maroc qui aura donc ses deux représentants en phase de groupe, puisque Hassania Agadi a réussi son coup face aux Zambiens de Green Eagles, battu 2-1 après le 1-1 à l'aller.
L'équipe du Hassania Agadi qui a joué à se faire peur, parce qu'en première mi-temps, elle a totalement dominé la partie, mais par accès d'individualisme, les joueurs ont raté des occasions très franches de scorer. Et un peu contre le cours du jeu, à la 56e minute, les Zambiens ont pris l'avantage. Le Hassania s'est retrouvé quasiment le couteau à la gorge et a dû déployer un gros effort sur le plan collectif pour pouvoir revenir une première fois dans la partie à la 72e minute par le milieu Malouki. Et puis surtout pour prendre définitivement l'avantage à quelques minutes de la fin par Berkaoui à la 86e minute exactement. Le Hassania d'Agadir disputera pour la deuxième année consécutive la phase de groupe de la Coupe de la CAF. Lors de la précédente édition, l'équipe avait réussi à s'extirper de cette phase et atteindre les quarts de finale, s'inclinant face au futur vainqueur, le Zamalek. Mais c'est une équipe qui possède aujourd'hui un défaut majeur, c'est de ne pas avoir un grand attaquant, un joueur capable de faire face à ce genre de situation difficile. C'est une équipe qui score très peu, puisque lors du tour précédent, elle s'était qualifiée au bénéfice du but marqué à l'extérieur face à l'Ittihad libyen. Il va falloir chercher cet oiseau rare ou bien trouver une combinaison différente pour pouvoir survivre à une phase de poule. Le tirage, c'est le 10 novembre prochain, et on verra dans quelle mesure cette équipe, qui sera certainement logée au chapeau numéro 2, pourra s'extirper une nouvelle fois de cette phase et atteindre le minimum syndical, c'est-à-dire les quarts de finale de la compétition.
Ça passe aussi pour le club malien, double vainqueur des Tchadiens d'Elect Sport, d'où la joie du coach du Djoliba AC, Georges Kouadio, qu'on écoute.
La clé de la victoire, c'est de respecter l'adversaire et de jouer franchement. Les jeunes gens ont été corrects, ils ont joué sans relâche, ils ont joué pour ne pas prendre de but et de pouvoir en marquer. C'était pas facile. Je dois les féliciter et dois féliciter aussi les dirigeants qui ont mis tous les moyens pour que nous puissions arriver à cette étape et remercier les supporters qui sont sortis, nombreux comme un seul homme, pour être le 12e homme, pour apporter ce qu'il fallait à cette équipe. Vraiment, je suis fier du Mali. Je dis félicitations à tous les Maliens. Je suis venu l'année dernière trouver une équipe. Je n'ai pas pu faire de recrutement. J'ai travaillé avec l'équipe qui est là. On n'a pas pu jouer le championnat. On a travaillé et voilà le résultat.
Georges Kouadio, coach du Djoliba, l'adversaire du jour, félicite son bourreau, Ouma Francis, coach de l'Expo.
C'est normal qu'on doit perdre 4-0 parce que Djoliba, ils ont une équipe. Les jeunes ont des caractères. Djoliba, chez lui, il a très bien joué parce que chez nous, on a joué défense contre-attaque. C'est une grande équipe, je les respecte. C'est un pays qui est bien organisé. Je tire le chapeau à Mali. Notre adversaire, il a l'avenir. C'est qu'il a une très bonne équipe et la chance qu'ils ont aussi le public qui les ont soutenus jusqu'à la fin. Ça, c'est encourageant. C'est vrai que c'est pas à trouver en Afrique noire. Mais au Mali, je tire le chapeau parce qu'ils sont solidaires et c'est là qu'il y a un jeu sur nous.
C'était donc Oumar Francis, coach d'Elect Sport du Tchad, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Ce serait une grande première pour les Ivoiriens du FC San Pedro qui ont sorti les Ghanéens d'Asante Kotoko, tout comme les Mauritaniens du FC Noadibou, ainsi que les Sud-Africains de Bidvest et les Zambiens de Zanaco. Ça passe aussi pour les autres Nigériens d'Enyimba, vainqueurs des Sud-Africains du TS Galaxy. Alors Jules, on va faire une analyse d'ensemble. FC San Pedro, FC Noadibou, Bidvest, ce ne sont pas des noms très connus dans les compétitions interclubs. Est-ce à dire qu'on tend vers une redistribution des cartes de favoris dans ces compétitions interclubs sur le continent?
Oui, bien sûr. Et surtout, c'est une tendance qui concerne essentiellement la Coupe de la CAF. Et parce que presque chaque année, on a de nouvelles têtes qui arrivent et certaines confirment l'année d'après ou bien les années qui suivent. Et c'est une très bonne chose parce que le football africain se démocratise et ça permet aux jeunes équipes de s'aguerrir et de connaître en quelque sorte la grande compétition et ce qui servira à terme aux équipes nationales.
Le Paradou n'a pas laissé de chance aux Ougandais de Kassissié. Le dernier qualifié sera connu demain et ça se joue entre les Béninois d'Esaü et les Sénégalais de Génération Foot. Le club de Cotonou est allé s'imposer 1-0 à l'aller au Sénégal. Pas de quoi emballer l'entraîneur Biorucha.
Nous préparons ce match avec beaucoup de sérénité. Nous essayons de ne pas nous affoler parce qu'il s'agit d'un match très capital pour nous. Et on a en face un adversaire difficile à jouer parce qu'il s'agit de l'équipe championne du Sénégal. Il va falloir que nous jouions en comptant sur nos valeurs, c'est-à-dire en comptant sur nos forces et mettre en place une stratégie qui nous permettra de contenir les velléités de l'adversaire.
Bio Richard, coach des Béninois d'Esaü au micro d'Élisée Mpatine. Alors Élisée, c'est une petite avance, mais c'en est une quand même pour les Béninois.
Oui, bien évidemment, puisque ce n'était pas gagné d'avance, surtout face à cette équipe de Génération Foot qui domine le football sénégalais, le championnat sénégalais, j'allais dire, depuis près de 2 ans, avec de très bons joueurs, notamment. On les a vus lors de leur grande prestation contre les Égyptiens de Zamalek qui auraient pu éliminer s'il n'y avait pas cette affaire de match reprogrammé. Donc les Sénégalais avaient de la valeur. C'est vrai qu'il y a eu assez de temps pour préparer la réception des Béninois des AE, mais les Béninois ont fait preuve de solidité et sur cette frappe du pied gauche de Joël Lecon qui n'a laissé aucune chance au gardien de but sénégalais, une victoire méritée des Béninois qui se sont bien comportés. Et Biorucha l'a dit, pas de quoi s'emballer, on va jouer à fond cette explication. Tout le public sportif béninois est mobilisé d'ailleurs depuis hier pour effectuer massivement le déplacement au stade René Pleven d'Atata. Donc c'est dire que ce sera une victoire nationale. Et ce sera une première aussi pour le football béninois d'avoir un représentant en phase de poule d'une compétition africaine des clubs.
Et c'est sûr que monsieur ne l'entend pas de cette oreille, c'est bien Amdine Nassi. Alors Amdine, Génération Foot devra quand même faire montrer disons un autre visage pour espérer se qualifier.
Tout à fait, Yacouba, vous avez raison, parce que Génération Foot sera en quête d'exploit, puisque décrocher une qualification à l'extérieur, c'est pas donné à tout le monde, surtout en Afrique. Mais il faut reconnaître l'exploit quand même de ces jeunes Béninois qui ont réussi à battre cette équipe de Génération Foot au niveau du stade Ladior de Thiès. Maintenant, c'est un pas très important pour les Béninois, vous l'avez dit. Et c'est une courte mais précieuse avance des Béninois. Mais Génération Foot va tenter quand même de créer l'exploit en allant pourquoi pas battre cette équipe béninoise par 1-2-0 pour pouvoir quand même décrocher cette qualification. Parce que Génération Foot, au niveau du Sénégal, règne sans partage depuis 2 à 3 ans. Génération Foot fournit les meilleurs footballeurs du Sénégal actuellement. Des joueurs comme Sadio Mané sont sortis de là-bas. Des joueurs comme Habibou Diallo qui est l'actuel meilleur buteur du championnat de France est sorti de cette académie. Donc, Génération Foot a des éléments, a des arguments pour pouvoir créer l'exploit. C'est une mission donc très, très difficile, mais pas impossible, Yacouba, puisque Génération Foot est capable de renverser la tendance au niveau de la capitale béninoise pour pouvoir gagner ce match et pouvoir se qualifier. Et ce sera une première également pour Génération Foot qui n'a jamais joué la phase de poule, que ce soit la Ligue africaine des champions, que ce soit la Coupe de la CAF. Donc c'est un match à négocier et l'exploit n'est pas impossible pour ces joueurs de Génération Foot, Yacouba.
On aura la réponse demain. Si on ajoute le vainqueur de ce match d'Esaü et Génération Foot, En plus de Oroya, Nouadhibou, Enimba, Enugu Rangers, Djoliba, San Pedro. Alors, l'Afrique de l'Ouest se retrouve avec 7 clubs en phase de groupe de cette Coupe CAF. L'Afrique du Nord en a 6, Berkane et Hassania, Pyramide et El Masri du côté de l'Égypte, donc Paradou, le club algérien, et Al Nasr de la Libye. Alors, l'Afrique centrale n'a qu'un représentant, les Congolais du DC Motoma Pembe, l'Afrique de l'Est 1, les Zambiens de Zanaco et l'Afrique du Sud 1, Bidvest 8. Alors, Jules, comment expliquer ce détachement de l'Ouest et du Nord du continent par rapport au centre, surtout à la traîne?
Mais la réponse est simple, c'est la formation. La formation a été développée dans ces régions ces dernières années. Le football est devenu une véritable industrie. Et donc, on produit des joueurs de qualité dès le terroir national. Ça se répercute aussi et sur le résultat des jeunes. Et il y a les meilleurs transferts. Donc, l'Afrique centrale, qui, à un certain moment, avait une avance avec le club de Brasserie au Cameroun, de l'école Kadji et consorts, a pris du plomb dans l'aile et est sérieusement en retard. Je crois qu'il y a un effort à faire dans ce sens.
Merci Jules-Valentin Ngoué. Le tirage au sort de la phase de groupe de cette Coupe de la Confédération aura lieu le 10 novembre prochain. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Alors, cette date était attendue. Elle est finalement tombée. Le CHAN Cameroun 2020 va se dérouler du 4 au 25 avril prochain. Amine, une question, on va dire, pour l'édition précédente, c'était les mois de janvier et février. Cette fois-ci, on décale jusqu'au mois d'avril. Problème ou pas?
Gros problème, puisque ça supposera un aménagement des compétitions africaines. Il faut juste rappeler que certains pays phares participant au CHAN, je veux citer le Maroc, la Tunisie et la RDC, auront des clubs qui seront engagés dans les phases finales des compétitions africaines des clubs, que ce soit la Coupe de la CAF ou surtout la Ligue des Champions. Ces pays briguent un titre au Cameroun. Alors, que doit faire la CAF? Est-ce qu'elle doit décaler ses rencontres de compétition africaine après, la tenue de la compétition et quid des championnats nationaux qui seront appelés à s'arrêter? Donc, visiblement, on est encore dans l'improvisation. On ne sait pas aussi si ces pays ne vont pas faire pression pour que la date soit décalée. Donc, il va falloir attendre la suite des événements. Mais visiblement, on continue à naviguer à vue au sein de cette institution qui, aujourd'hui, est sous tutelle et n'a toujours pas vu le bout du tunnel en termes de gestion, de management et de gouvernance.
Alors, un autre problème soulevé par pas mal de sélections africaines, surtout la semaine dernière, c'est le calendrier avec la programmation très rapprochée des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021 qui va se jouer au Cameroun d'ailleurs. Alors, Jules, il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui se sont plaints, il y a le Sénégal, du rapprochement bien sûr de ces dates-là. Il y en a qui jouent le 14 et qui trois jours après doivent se retourner peut-être chez eux ou encore se déplacer pour jouer. Le 14, le 17, ça pose véritablement problème tout ça.
Non seulement ça pose problème, mais c'est un manque de respect vraiment qui commence à être banalisé. Et on comprend maintenant pourquoi les adeptes du football business tenaient tellement à faire des changements en Afrique pour se retrouver devant des leaders du football africain moins expérimentés et qui ont moins d'aura et qu'ils pourront, ma foi, convaincre facilement ou alors ils pourront se permettre de travailler pratiquement sans eux. Bon, nous sommes en train de voir le calice jusqu'à la lie. Il faudra bien qu'on se ressaisisse de manière globale et qu'on se fasse respecter au niveau des calendriers et du football mondial.
Alors, Amdine, on se rappelle que le Sénégal avait demandé à ce que ces deux premières journées-là, les dates de ces deux premières journées soient revues. La CAF a refusé. Que s'est-il passé?
Non, en fait, concernant ces compétitions, c'est la FIFA qui décide de tout. Et sans prendre en compte quand même des réalités de l'Afrique. C'est à la CAF de se battre pour pouvoir respecter quand même certaines conditions. On sait qu'en Afrique, les moyens, c'est pas tellement ça. On ne peut pas jouer deux matchs dans le continent Afrique sans moyens. Le Sénégal, bon, c'est vrai que Aliou Cissé, c'est le coach qui a demandé à ce qu'on reporte le match de 24 heures. Mais il n'a pas été suivi par la CAF. Donc cela pose problème. Mais je dis que même pour le Sénégal, on peut trouver des solutions puisque
Au Sénégal, on a l'habitude de voyager avec un avion spécial. Ce n'est pas le cas de tous les pays en Afrique. Donc, il faut un peu de respect, comme l'a dit et tantôt mon confrère, il faut du respect. Les réalités de l'Afrique ne sont pas les réalités de l'Europe. Ils ont les moyens, nous, on n'en a pas. Donc, il faut tenir en compte tout ça. On ne peut pas jouer de match en Afrique en espace de 5-6 jours. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on respecte. Yacouba, ce n'est pas possible.
Parlons à présent de cyclisme. Manuel Antonio Dario a remporté le Tour du Faso 2019. C'est à l'issue de la 10e et dernière étape courue hier entre Kombisiri et Ouagadougou, enlevée par le Burkinabé Bachirou Nikema. À 27 ans, Manuel Antonio Dario est le premier Angolais à remporter le Tour du Faso. Il succède ainsi au Burkinabé Mathias Sorgho, vainqueur en 2018. On fait le point avec Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, qui a parcouru les 2270 km avec les cyclistes, ou du moins en voiture.
La victoire finale après 10 étapes de course est revenue à l'Angolais Manuel Antonio Dario. Il est suivi de son compatriote Bruno Arroyo à 54 secondes. Le podium est complété par le Néerlandais Dorin Jonas à 1 minute 24 secondes. Pour sa première participation au Tour du Faso, l'Angola frappe un grand coup. Son coach Carlos César avoue que le maillot jaune n'était pas forcément l'ambition du départ.
Notre objectif, les trois premiers, le classement pour équipe. La première étape, le contre-le-monde, notre maillot jaune. Vu que Rwanda est le maillot jaune, nous avons vu que les grandes possibilités de notre attaquer le maillot jaune.
Le premier Burkinabé pointe à la 5e place. Il s'agit de Bachirou Nikema. C'est d'ailleurs lui qui a gagné la 10e et dernière étape courue entre Kombisiri et Ouagadougou sur 100,6 km. Tout compte fait, le président du Faso, Rochma Christian Kabore, se dit satisfait de l'organisation de cette compétition.
Remercier l'ensemble des pays qui ont participé à cette édition. Malgré un contexte sécuritaire difficile, cela honore le Burkina Faso et cela montre que nous pouvons toujours réaliser des activités quand on tient compte du fait que le tour a traversé un certain nombre de régions de notre pays.
Fait marquant de cette édition, c'est la forte allure imposée par la caravane. La vitesse moyenne horaire a parfois atteint les 48 km, une première sur le Tour du Faso depuis sa création. Kader Traoré sur les routes du Tour du Faso pour VOA Afrique.
On parle à présent de rugby. L'Afrique du Sud a remporté son troisième titre mondial au Japon après 1995 et 2007. Les Springboks ont su classer le 15 de la Rose d'Angleterre 32 à 12 à Yokohama en finale donc. Alors Élisée, l'Afrique du Sud a réussi son coup. Elle était partie pour remporter ce trophée-là.
Oui, bien évidemment, Yacouba, il faut dire que les Boks ont été supérieurs et plus adroits. Et comme souvent, cette finale de Coupe du Monde de rugby a été très fermée pendant de longues minutes avec un défi physique intense, un défi qui a tourné en faveur des Sud-Africains dans le premier acte. Il faut dire que le match des demi-finales que les Anglais ont joué, les ont complètement pompés et ils n'ont pas pu réaliser l'espoir de Johnny Wilkinson en 2003. Maintenant, les Sud-Africains remportent une troisième Coupe du Monde et égale du coup le record de la Nouvelle-Zélande. Donc on peut être fier de l'Afrique aujourd'hui dans cette discipline et dire que cette sélection sud-africaine était bien moribonde il y a cela quelques mois et la voilà championne du monde. Donc félicitations aux Springboks, amenés justement par un certain Cheslin Kolbein, que vous connaissez très bien, le joueur qui évolue dans le championnat français. Il a été vraiment insaisissable, il a apporté gros à cette sélection sud-africaine.
Merci bien Élisée Mpatine. Et pour ajouter, pour donc compléter ce que vous dites tout à l'heure, alors l'Afrique du Sud a été amenée par un capitaine noir, de peau noire, donc c'est la première fois dans l'histoire du rugby sud-africain qu'ils aient un capitaine de peau noire, la personne bien sûr de Siya Kolisi, et donc ce qui a suscité beaucoup plus d'engouement et ce qui a mis un peu de piment bien sûr à la joie du côté de Johannesburg ou encore de Durban et dans toute l'Afrique du Sud. Et donc vous le disiez si bien, une fierté pour le continent. Sporama va s'achever ici. Je rappelle qu'on était avec Amine Birouk en direct de Casablanca au Maroc, Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon, Élisée Mpatine depuis Boïkan au Bénin, Amdinsi est ici aux États-Unis, à New York précisément. À la réalisation, c'était Joselle Mauricien et Ali Abdoul. Devant ce micro, Yacouba Ouédraogo, je vous souhaite une excellente soirée. Tout de suite, ce sera une nouvelle édition du journal avec Abdourahman Dia. À la prochaine.